sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Princette, présentée par Irène Fengtail et Maxime Pouyan, avec Joël Attard, des fiches de Monsieur Cinéma. Bonjour Joël.
Bonjour.
Vanessa Archambault du Web Toulousain. Bonjour Vanessa.
Bonjour Irène.
Louis-Marie Solaire de Radio Présence. Bonjour.
Bonjour Irène.
Pour aujourd'hui, Pascal Alquier, notre journaliste indépendant travaillant pour La Dépêche, entre autres, est excusé. Sans oublier, bien sûr, Tiffaine Lemaine à la technique. Bonjour Tiffaine et merci. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est Trincette, c'est sur Esprit Occitanie et c'est parti pour une heure de passion, de rêve et d'émotion dans cette émission, dédiée au cinéma. Alors je viens de l'annoncer, pour cette deuxième édition, je co-anime cette émission avec Maxime Pouyan. Tout d'abord, bienvenue à toi Maxime dans notre équipe. Et ben écoute, je te laisse te présenter en quelques mots.
Ben, tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette nouvelle belle émission. Donc voilà, Maxime Pouyan, je suis réalisateur et photographe. J'ai fait donc l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle à Paris, en montage et en scénario. J'ai travaillé donc comme monteur en télé, j'ai réalisé des courts-métrages aussi que j'ai écrits. Et je fais aussi de la photo, du cadrage. Et je suis prof et, en école de cinéma, et je fais des ateliers vidéo et photo avec, dans des centres de loisirs. Et donc cette année, je serai à Cannes grâce au jury œcuménique, pour lequel j'écris des critiques depuis plusieurs années. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être membre du jury œcuménique. Voilà.
Merci, et tu as toute ta place dans cette émission. Je rappelle l'intérêt justement d'être plusieurs et d'horizons différents. Les sensibilités pour les films sont bien sûr différentes, nos ressentis complémentaires afin de vous donner, chers auditeurs, un panel d'informations variées. Je rappelle également que le parrain de cette émission est le réalisateur israélien Nadav Lapid, dont personnellement j'adore le cinéma, d'où l'intérêt justement des sensibilités de chacun. Moi je suis extrêmement flattée de cela, merci une nouvelle fois à Nadav et nous écouterons d'ailleurs en fin d'émission son message d'encouragement. Sur la première émission, nous avons eu en ligne David Gauquet, producteur qui nous avait parlé de son métier. Aujourd'hui, nous avons en ligne Manuel Bléton qui est compositeur de musique. Est-ce qu'il est là ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Manuel, bienvenue à vous dans notre émission Cinéma Trincette. Alors, qu'est-ce qu'un compositeur de musique ?
Qu'est-ce qu'un compositeur de musique pour le cinéma ? C'est ça
la question.
Ça a un peu coupé. D'accord. C'est quelqu'un qui a son propre langage de musicien. Et puis qui est aussi un peu caméléon, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter parce qu'on est quand même au service d'un film. Donc, qui sait écouter le réalisateur, poser des questions aussi, savoir pourquoi il fait ce film, et puis échanger avec lui sur des envies éventuelles.
Comment, alors on va revenir justement sur comment vous composez une musique, mais j'aimerais savoir tout d'abord comment devient-on compositeur de musique ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir fait une école de musique, le conservatoire, ou est-ce qu'on peut être autodidacte ? Comment ça se passe ? Comment on se fait repérer ?
Le plus important c'est quand même la musique, quel que soit le chemin qui nous mène à la musique. Donc moi par exemple, j'ai pas de formation classique, je suis autodidacte, ensuite j'ai ressenti le besoin de consolider ce que j'avais appris par moi-même, donc j'ai fait une formation d'orchestration, mais chacun a son parcours. Je crois que le plus important c'est que ça se passe souvent, en général, dans la petite enfance, à un moment où on est très sensible. Vers 5-6 ans, moi je sais qu'il y a des musiques qui m'ont marqué à cette époque-là, et peut-être que ça vient de là.
Vous pouvez en citer une. Vous pouvez en citer une musique qui vous a marqué.
Ah bah, à cet âge, j'avais fait une petite enquête à l'époque. Il y a une musique effectivement dans un documentaire qui m'avait marqué. On m'avait répondu que c'était soit une musique de Mahler, soit moi j'ai plus le souvenir de quelque chose qui ressemblait à du Ennio Morricone, mais bon.
Oui.
Voilà, c'est un souvenir très vague, mais je me souviens d'un lead chanté, ça je m'en souviens très bien, et puis l'émotion que j'ai eue en écoutant cette musique.
Quand on a envie de travailler comme compositeur dans le cinéma, comment fait-on pour se faire repérer par les gens du cinéma ?
On peut participer à des stages, des formations, il y en a pas mal. Je pense notamment à un organisme, une association pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Émergence, qui met le pied à l'étrier à de jeunes réalisateurs qui sont en voie de faire leur premier long métrage. Donc ils ont les moyens de maqueter une séquence de leur film, de leur futur film, avec des acteurs, des producteurs, des maquilleurs, des monteurs, etc. Et des musiciens. Donc là, on peut postuler, faire une demande. Et puis, il y a pas mal d'autres résidences comme ça qui font le pont. Comme par exemple, je crois qu'il y a le Moulin d'Andé. Il suffit de faire une petite recherche sur Internet et on trouve.
Alors, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand on est appelé par un producteur, par un réalisateur pour faire une musique de film, comment ça se passe ? On vous fait lire le scénario, on vous fait faire un essai de musique ou vous livrez quand la musique est terminée ? Comment ça se passe concrètement ?
Tout dépend qui vous aborde. En général, c'est le réalisateur et puis les échanges se font dans un premier temps avec le réalisateur, avec le producteur aussi, évidemment, même si le producteur passe peut-être au second plan au début du travail, c'est-à-dire que on échange surtout avec le réalisateur. Et lire le scénario, évidemment, mais le cinéma, c'est Bruno Coulet qui dit ça. Il dit que le cinéma, c'est avant tout de la lumière. Et donc, la lumière, le cadre, les dialogues, qui sont aussi de musique, sont très importants, en fait, pour arriver à définir les contours de ce que le réalisateur souhaite et ce que le compositeur peut lui proposer. Donc tout est important en fait, tous les signaux, qu'ils soient forts ou faibles, sont bons à prendre, et puis ensuite il faut essayer de composer. Donc moi dans un premier temps j'essaye de faire un peu comme une ouverture d'opéra, vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui est assez synthétique et puis qui va raconter en une minute ou deux l'histoire du film, le climat. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite où est-ce qu'on est. Mais ça c'est pas forcément le plus important. Ensuite il y a toute une partie technique aussi qui est importante, c'est-à-dire qu'il suffit pas de composer un thème qui plaît au réalisateur, il y a aussi des scènes qui vont être plus peut-être plus ingrates et plus techniques, et il faut savoir aussi répondre de ce côté-là.
Alors je me tourne vers mes petits camarades, on va faire un petit tour de table pour les questions. Alors bien sûr, on commence par Maxime. Je sais, Maxime, je te laisse poser une question.
Bonjour Manuel, oui. Et merci d'être dans notre émission.
Nous plusieurs, pardon.
Oui, pas de souci. Je voulais savoir, alors je sais qu'il y a des compositeurs qui le font et d'autres qui ne veulent surtout pas. Est-ce que vous assistez au tournage ? Est-ce que vous commencez à composer dès l'étape du tournage ou plus sur la partie post-prod après ?
Tous les cas sont possibles, mais le tournage, je sais pas, c'est agréable, c'est toujours bien, mais quand on va sur un tournage, ce qui est encore mieux, c'est de regarder dans le combo, regarder le cadre, regarder un peu la lumière. On prend un peu l'esprit, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même les échanges. Et puis pour compléter la première question, c'est vrai que en général, on livre au fur et à mesure. Hein, on livre pas tout à la fin du film.
D'accord.
C'est une petite précision.
Oui, Louis-Marie.
Bonjour, bonjour Manuel. Je voulais vous demander si il vous est arrivé de collaborer avec d'autres compositeurs de musique, parce que les grands compositeurs de musique, pour ne citer que le français qui est connu, qui a été récompensé par un Oscar, Alexandre Desplat, ont une équipe avec eux. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils composent les mélodies, mais ils font pas forcément l'orchestration. Est-ce qu'il vous est arrivé donc de contribuer à une partition?
De co-composer, parce qu'en fait, travailler avec d'autres compositeurs, on le fait tout le temps, parce qu'en général, les orchestrateurs sont compositeurs aussi. Mais de co-composer, ça m'est arrivé, mais plus des morceaux, des chansons, de la pop, du symphonique, non. J'ai jamais co-composé pour orchestre. Par contre, j'ai fait appel à un orchestrateur. Même si je fais mes arrangements moi-même, c'est vrai qu'un orchestrateur, c'est aussi le lien, c'est un peu comme le chef d'orchestre entre les musiciens, surtout s'il connaît l'orchestre et le compositeur. Donc ça peut aider simplement dans l'écriture. Parce qu'il faut penser que ça va être joué, donc il faut écrire le plus simplement et le plus voilà pour que les musiciens s'emparent de la partition très rapidement. Pour ça peut être intéressant de travailler avec un orchestrateur qui a toutes les techniques et toutes les ficelles pour simplifier un passage qui pourrait être un peu compliqué, un peu complexe quoi, à interpréter. Je sais pas si j'ai bien répondu.
Oui, merci.
Joël.
Oui, bonjour Manuel. Bonjour. Moi j'ai une question. On a une spécificité au niveau des musiciens français de film. On a eu plusieurs prix aux États-Unis, on a plusieurs Oscars, je parle notamment à Michel Legrand qui en a eu 3, je pense notamment à Maurice Jarre qui en a eu 3, on parlait tout à l'heure d'Alexandre Desplat aussi. Est-ce que vous avez songé à un moment donné pour cette exception culturelle française de migrer aux États-Unis et d'essayer justement de vous faire une place au soleil là-bas aussi, d'essayer en tout cas?
Non, pas tellement, même si j'ai un copain qui fait des films là-bas, mais je vois pas trop l'intérêt. Il y a 10 000 compositeurs à Hollywood, je veux pas être le 10 000 et unième.
Votre coloration française?
Pardon?
Votre coloration française, les musiques de Michel Legrand, elles ont une saveur complètement différente. Celles de Philippe Sard, elles n'ont rien à voir avec les films américains. Quand on compare John Williams avec la musique de Philippe Sard, qui est capable d'inclure des sentiments et qui vous colle à la peau, il y a vraiment une notion de personnalisation française dans la musique du film. Moi, j'ai eu la chance d'organiser 2 concerts de Michel Legrand et je peux vous assurer que c'est une exception culturelle. Vous êtes une exception.
Oui, c'est gentil, mais c'est pas. Je serais évidemment très très heureux si un réalisateur aux États-Unis m'appelait, hein, évidemment. Mais bon, faut trouver le projet aussi. Hein, c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde, hein, comme je vous le dis là-bas. Voilà. Moi, c'est vrai que j'exclus rien. Je démarcherai sans doute des superviseurs ou des gens qui sont dans la partie s'occupent du département musical aux États-Unis. Mais c'est vrai que mon réseau pour l'instant est plutôt français, mais voilà.
Vanessa.
Bonjour Manuel.
Bonjour.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a un film qu'on vous a présenté et vous êtes dit « Oh là là, ça va être très difficile à faire la musique » et vous avez quand même réussi à la faire?
Oui. Oui, mais alors c'est un film qui est un peu exceptionnel. C'est un film avec pas mal de budget. Finalement, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce film. Mais simplement, oui, je me suis dit, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des acteurs professionnels et d'autres qui n'étaient pas du tout. C'est un film sur la guerre d'Algérie. Donc, il y avait plein d'acteurs qui jouaient un peu faux, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'avec la musique, on pouvait redresser un petit peu les choses. Mais c'est vrai que c'est un challenge, mais ça peut marcher. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand on a des dialogues qui sonnent bien, la moitié du travail est fait. S'ils sont bien interprétés également. Mais si les dialogues sont un peu, ou surjoués, ça peut être compliqué. Mais la musique a quand même cette puissance-là de faire d'enrober un petit peu tout ça, et finalement, bon, ça passait au final.
Alors Maxime a une question, et j'en aurai une aussi après.
Du coup, je voulais savoir quels étaient vos prochains projets.
Alors, j'ai quelques projets cinéma qui sont... pour l'instant, il n'y a rien vraiment de concret, c'est dans les tuyaux. Mais j'ai commencé quand même, j'ai travaillé pendant quelques mois sur une comédie musicale.
Donc, c'est original, oui.
Pardon ?
Original, en tout cas, oui, ça doit changer.
Eh bien, j'ai beaucoup appris, parce que c'est aussi l'intérêt de faire de cette activité, c'est qu'on apprend. On apprend énormément, et la comédie musicale, je connaissais, mais finalement, je connaissais pas si bien que ça.
Et vous avez contribué, du coup, un petit peu au scénario, je présume, ou pas du tout ?
Au scénario, est-ce que j'ai participé au scénario ?
Oui, parce que c'est vrai que dans une comédie musicale, la musique est elle-même...
Très liée aux
intégrantes, oui.
Non, parce que là, c'est une adaptation d'un roman français du 19e. Mais par contre, participer aux paroles des chansons, oui, là, davantage, oui.
On peut savoir ce que c'est, ou il y a encore une exclue
Non, pas trop.
D'accord. D'accord. Pas de soucis. On aura essayé.
Un peu en stand-by, voilà. Okay. C'est compliqué de monter une comédie musicale en ce moment. Les producteurs du mal à trouver des financements.
Ça coûte cher.
Bien sûr, ça coûte très cher. Alors moi, j'ai une toute dernière question, Manuel. J'imagine que quand on vous commande une musique, il y a une deadline à respecter. Est-ce que c'est pas contraignant de devoir préparer une musique dans un laps de temps donné ?
Non, alors ça s'apprend. Effectivement, c'est faut savoir se mettre au travail. Et puis se dire il faut que je fasse. Moi, je sais que je connais à peu près ma capacité de travail. Je sais que je fournis tant de secondes par jour que je peux, quel que soit l'élaboration de l'orchestration. Ça peut être quelque chose de très fourni, ou un piano solo. Je sais que en moyenne, je peux fournir tant de musique ou tant de secondes de musique par jour. Voilà, et ça, je pense que tous les compositeurs qui travaillent le savent très bien. Et ça permet d'anticiper. Ensuite, il y a des trucs pour aller plus vite. Effectivement, on peut prendre des équipes. On peut aussi essayer de travailler plus rapidement en évitant de développer ou en faisant des déclinaisons de thèmes.
En tout cas, merci. Je regarde mes petits camarades pour savoir s'il reste des questions. Mais non, on est bon. Mais merci pour votre intervention. On est toujours content d'avoir un professionnel du cinéma dans cette émission. Et à bientôt.
Et on a hâte de découvrir cette fameuse comédie musicale.
Voilà. Au revoir, Manuel.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
On passe tout de suite à notre rubrique « Séquence film à l'affiche ». Alors, on va les donner dans l'ordre. Alors, bien sûr, comme toujours, on a fait une petite sélection de tout ce qu'il y a, parce qu'on ne peut pas parler de tous les films. dans les sorties récentes. Alors le 30 mars, depuis le 30 mars, vous avez toujours à l'affiche Encore le dernier, bien sûr, Cédric Clapiche. Alors qui veut nous parler de Encore ?
Vas-y, je t'en prie.
Louis-Marie.
Une façon. C'est vrai qu'ici, on est un pays de rugby. Le rugby, on passe par l'arrière. Hein, c'est ça. C'est le seul sport collectif. On va vers l'avant, mais on passe vers l'arrière, par l'arrière. Enfin, on fait des passes vers l'arrière. Bon, je me suis un peu emmêlé les crayons, mais peu importe. En tout cas, le film de Clapiche, oui, est particulièrement réussi. Parce que, d'abord, Clapiche, c'est un réalisateur qui aime la danse. Et qui, ça fait longtemps qu'il voulait la filmer. Il a déjà filmé. Et c'était la première fois qu'il en faisait un film de fiction. Et il a su très adroitement, très habilement, inclure dans son film ces moments de danse qui, finalement, ne font pas avancer l'histoire, mais qui, malgré tout, sont là pour l'illustrer et qui sont une forme de parenthèse, voire de parenthèse enchantée, même si l'argument de départ du film est dramatique, dans la mesure où c'est une première danseuse qui a toutes les chances de devenir une danseuse étoile.
Alors, interprétée par Marion Barbeau.
Oui, extraordinaire d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle faisait l'actrice. Elle est danseuse. Et cette danseuse, donc, se blesse au cours du début, du prologue de la Bayadère, et qui, entre parenthèses, est magnifiquement filmée par Cédric Clapiche. Ce sont les 15 premières minutes du film. Il y a une tension, à la fois une tension dramatique, et on est au cœur de la danse, puisqu'on est à la fois sur le plateau avec les danseurs, et on est dans les coulisses, on va même sur le toit de l'opéra. Et on attend, parce que le spectateur connaît l'argument du film, et on se demande comment ça peut arriver. Et quand ça arrive, malgré tout, on reste surpris, parce qu'on sait qu'il va y avoir l'accident, mais on se demande comment il peut en advenir. Alors après, le reste, c'est la reconstruction de cette jeune fille, le chemin est un chemin qu'on a pu voir dans d'autres films, dans des situations un peu similaires, mais c'est très bien fait parce qu'elle va croiser des personnages qui vont l'aider à se reconstruire. Et il faut dire que Cédric Clapiche a soigné particulièrement ses personnages secondaires.
Oui, Pio Marmaille, qui est incroyable.
Des acteurs formidables comme Pio Marmaille, vous le disiez. Exactement, François Civil. Alors, François Civil est une espèce de benêt. Ne soyons pas méchants. Son personnage, pas lui.
Il est naïf,
oui,
mais
naïf,
touchant.
Naïf
très,
et touchant.
Très attachant.
Il est kinésithérapeute. Enfin, il a la prétention de l'être.
En tout cas.
Plus thérapeute que kiné. Voilà. C'est beau. La musique est bien. L'histoire, la façon de filmer est magnifique. Les images sont
superbes. C'est un hommage à toutes les danses.
Exactement. J'arrête parce que je risque de monopoliser.
Non, tu fais. En fait, ce qui est la force aussi de Clapiche, c'est aussi de bien, comme il l'a dit Louis, c'est de bien filmer la danse. D'abord parce que je pense que de manière historique, lui, c'est un metteur en scène qui a été documentariste aussi de films de danse. Il partage la vie d'une danseuse aussi. Donc je pense qu'il a un éclairage très particulier. Il adore aussi, il a une passion pour la danse depuis très longtemps. Je sais qu'il est un fan de Caroline Carlson, une superbe danseuse américaine. Voilà, donc c'est vrai que Clapiche, c'est un metteur en scène qui est vraiment à part, très singulier. Alors, c'est un film qui prend corps. Alors, je ne dirais pas que j'ai pris pied avec le corps, mais en tout cas, c'est en tout cas un film qui est formidable. Je trouve que, là, par exemple, la performance de Muriel Robin, tout en finesse, en subtilité, qui permet la reconstruction de corps, enfin, encore aussi, vous voyez, encore et des reconstructions de corps. Voilà, c'était un bon Clapiche. Après, il nous avait donné 2 mois et avec François Civil. Et je trouve qu'il y a aussi cette famille qu'il est en train de se constituer d'acteurs, et François Civil en fait partie. Puis Omar Maï est formidable aussi. Enfin, vraiment, c'est un très bon film à voir.
Mais puis Omar Maï, il est en duo avec. Alors, la fille là, qui est assez incroyable, ces deux-là, ils se chamaillent tout le temps. Et en fait, ça apporte corps, et il y a aussi ce rapport entre la danse et la cuisine.
Oui, je pense que, en fait, tu as raison de souligner ça. Je pense que Clapiche, il a voulu montrer à travers des thématiques parallèles, la cuisine, l'accident aussi de Muriel Robin par rapport à l'accident de la danseuse, qu'on peut se reconstruire, quel que soit le moyen. L'essentiel, c'est le chemin, pas forcément le but.
Et puis surtout, avoir des passions.
Une chose, reparler de cette actrice,
Elle s'appelle Souheila Yacoub. Et
j'arrivais
elle
pas à dire le nom, donc.
Et je effectivement, t'ai laissé la primeur, elle est formidable. Et ça permet justement ces moments où on cuisine, ces moments où on mange, qui sont des moments qui sont toujours des moments qui peuvent être particulièrement réussis et marquer la mémoire du spectateur quand on voit ça sur un écran. Les scènes de bar, les scènes de boisson, et il y en a une et il y en a une dans le film qui est assez remarquable, un clin d'œil furieux au tonton flingueur il mange de la poire avec du chocolat. Alors le dessert est extraordinaire tout en buvant de la poire et en se demandant dans quel sens il faut boire, ou si on mange avant de boire ou si on boit après manger, et il y a de la poire, il y en a.
Et puis bon, peut-être une dernière intervention, je voudrais surtout souligner la disponibilité de Klapisch en interview. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est toujours d'humeur égale, d'une gentillesse absolue, qui répond, qui n'a pas du tout la grosse tête. Il y en a qui devraient en prendre des leçons. Et voilà, c'est vrai.
Certes.
Voilà, et je trouve
on a des noms.
Oh, je pourrais en citer quelques-uns, mais on ne va pas se mettre à dos la profession, parce qu'on travaille avec.
En tout cas, si je peux me permettre, vous m'avez donné encore plus envie de le voir.
Oh, voilà. Alors après encore, j'aimerais qu'on parle d'un film qui est sorti le 6 avril, c'est En même temps de Benoît Delépine et Gustave Carverne. Qui l'a vu ? Qui en parle ?
Oh, c'est...
Alors, moi, je,
bravo,
je
veux... hein, toujours la passe vers l'arrière.
Je vais taxer d'être en avant. Non, en fait, je trouve que le film du tandem Delépine-Carverne, je le trouve, moi, formidable parce que, alors, c'est sûr qu'il prend un bouillon au niveau de la presse, qu'ils disent que c'est consensuel, c'est qu'il y a plein d'idées reçues, etc. Mais je trouve que ce film régional, puisqu'il a été tourné essentiellement dans le Tarn, mais c'est qu'un prétexte. On voit beaucoup aussi de scènes à la fin du film à Toulouse. Je trouve que, en fait, la manière d'associer deux personnages de bords différents en les juxtaposant de manière un petit peu vicieuse, je trouve que c'est très, très bien vu et c'est une satire. C'est une satire du monde politique et c'est marrant. On aimerait bien s'imaginer peut-être deux personnalités du panel actuel collées à ce point.
Oui, alors je sais, et j'ai lu comme tout le monde partout que c'était un film qui a pas été très bien accueilli par la critique, et personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup ri et je comprends pas ce déferlement négatif qu'il y a eu sur ce film.
C'est-à-dire que c'est peut-être dans la forme, parce que on critique beaucoup, bon, à la fois l'histoire et dans la forme, puisque on accuse, c'est ceux qu'on critique, c'est la forme de cette espèce d'odyssée nocturne pour arriver à se décoller, c'est ça, un road movie au ralenti qui les amène d'étape en étape et qui est une succession de scénettes. Ils vont tomber sur des gens, il y en a quelques-uns qui sont assez extraordinaires. Hein,
oui, Yolande Moreau, pour ne citer
alors,
qu'elle.
Yolande Moreau qui est la propriétaire d'un...
La tenancière
d'un bar d'hôtesse qui s'appelle le FMI.
Ça ne s'invente pas. Alors, non, on ne l'a pas dit, mais c'est alors avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Et c'est au cinéma depuis le 6 avril. Je passe au film suivant. Alors, à l'American Cosmo, depuis le 13 avril, nous avons Vortex de Gaspard Noé. Alors, je tiens à dire que vous allez parler du film, mais je souhaite quand même dire que Gaspard Noé a été pour moi une très jolie surprise, parce que je ne connaissais pas ce réalisateur. Enfin, je ne l'avais jamais interviewé. Et j'ai découvert un monsieur surprenant, et je le dis de façon très positive. Qui veut nous parler de Vortex ?
Oui, nous étions ensemble, Irène, quand on a rencontré Gaspard Noé. Et effectivement, la surprise vient de la douceur et du calme avec lequel il répond, alors que l'ensemble de sa filmographie est plutôt une filmographie agitée, voire violente, oui, et sulfureuse, bien sûr. Souvent par ces sujets. Et là, cette fois-ci, il surprend parce que, justement, même si le titre peut être racoleur, d'ailleurs, il nous l'a expliqué pourquoi, c'est mieux de mettre Vortex que Tourbillon, parce que pour un type, ce sont ses propres mots, pour un type qui a réalisé Climax, Lux Eterna, Vortex, ça va claquer, ça va parler, ça va déranger, ça va raconter une histoire un petit peu délicate, et c'est ce qu'il voulait. Alors l'histoire est effectivement délicate, mais l'astuce, c'est là où aussi... Gaspard Noé est remarquable dans ses choix, ses expériences formelles. Il a décidé de partager l'écran en deux, c'est-à-dire qu'il filme, son film est en cinémascope, mais avec un partage central, c'est-à-dire qu'il y a deux images, ce que les Américains appellent un split screen, c'est-à-dire qu'on partage l'image en deux. Je fais le geste de quatre, mais c'est que deux. Et dans chacune des parties, puisque le film raconte la lente déchéance, la lente descente aux enfers vers la sénilité et vers la mort d'un couple de personnes âgées, donc d'un côté il y aura la femme et de l'autre côté l'homme. C'est-à-dire que le spectateur peut voir est le témoin de leur lente descente, je disais, mais qui
chacun a son rythme.
Exactement, qui ne se passe pas de la même façon, puisqu'il y en a une qui est plutôt frappée par Alzheimer, sans que ce soit dit, une démence sénile, et l'autre est usée par son travail et usée aussi par sa femme. Voilà, on va voir ce qui se passe, et le tout avec le fils qui ne sait pas comment arriver à les aider.
Alors le fils joué par
Alex Lutz.
Voilà, exactement.
Qui est formidable.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le film de la maturité pour Gaspard Noé?
Est-ce que c'est de la maturité? Non, je pense pas que ce soit la maturité. Il est déjà mature. Il était mature avant. Il le sera après. Il continuera à nous surprendre, en tout cas là. C'est une belle surprise. Et d'autant que c'est compliqué dans la mesure où c'est un film qui dure quand même 2h30. 2h30 pour montrer ça. Et ça reste poignant de bout en bout. Il a pas raté son coup, là. Gaspard Noé. Il m'avait moins convaincu. Avec ses précédents films, en particulier Climax, qui était le précédent, cette histoire complètement sulfureuse, ténébreuse, d'une répétition d'une soirée qui finissait en apocalypse. Et là, il y a une forme de douceur, de douceur terrible, parce que c'est poignant, parce que c'est inéluctable, parce que ce qui va arriver à ces personnes, c'est ce qui va nous arriver aussi. La vie n'est qu'une lente et courte parenthèse enchantée, c'est ça qu'il dit en exergue de son film. Ben voilà, c'est ça. Et cette parenthèse enchantée, ben, c'est qu'une parenthèse. Ouais.
Alors, le mot agonie n'est pas forcément avec le mot fin incompatible. C'est même pas un pléonasme.
C'est ça. Alors, dans un tout autre, dans une toute autre, je cherche mon mot, donc c'est pas grave. On va parler du Le Monde Après Nous, toujours l'American Cosmo d'ailleurs pour celui-ci. Ça a été aussi une jolie surprise. Qui a vu Le Monde Après Nous, Maxime?
Du coup, alors oui, j'ai vu Le Monde Après Nous.
Il est sorti hier, celui-ci.
Je me suis permis d'écrire quelque chose. Voilà, je vais vous le livrer, parce que ça sera plus simple, parce que je me suis un peu amusé avec des petits jeux de mots.
Oui, excuse-moi, je n'ai pas dit. Hein, c'est un film de Luba Ben Salah, et je n'avais pas donné le nom du réalisateur.
Pas de souci. Donc, c'est un film léger qui fait sourire par sa justesse de scénario, au plus près des deux comédiens principaux. Un livreur est petit à petit délivré de ses galères grâce à une fille libre. Ils se livrent l'un à l'autre comme un véritable livre ouvert, ce qui est d'autant plus fort pour un apprenti écrivain. L'authenticité fait la force de ce film d'une joie exacerbée. Leur sourire est sur lui, et surtout celui de l'Abidi, fait qu'on ressort de ce premier long métrage avec un sentiment de bonheur pour l'avenir et le monde après nous. Voilà.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vanessa, tu as vu le film aussi?
Moi, j'ai trouvé ça très touchant et en même temps... très compliqué pour les jeunes de maintenant. Ça ouvre vraiment quelque chose qu'on ne voit pas. Ces difficultés à se loger, à vivre et à s'en sortir par ses propres moyens. Parce que ils se disent, je suis partie de la maison, donc je veux réussir par moi-même. Sauf qu'à un moment donné, y a une main tendue et on aime cette main tendue. Et je trouve que le casting est super bien fait. Et j'adore, mais qu'est-ce que j'adore, le meilleur ami. Et j'ai oublié son nom. Je suis pas très douée pour les noms. Je suis vraiment désolée, mais
Aurélien
nous a expliqué,
Gabrielli.
Voilà.
Est-ce que c'est Aurélien?
Non, c'est pas Aurélien. C'est l'acteur principal. Ouais. C'est celui qui est le meilleur ami, qui se met dans la douche à un moment donné. il est vraiment excellent et il apporte cette touche d'humour à chaque fois qu'il rentre et il est très très touchant et on a envie de le prendre dans ses bras, ce gros nounours qui est là pour son ami mais qui en même temps fait gaffe sur gaffe.
Il s'appelle Léon Cunha da Costa. Et en fait, moi, il y a aussi, pour compléter la compléter la distribution, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est un Gersois puisqu'il est natif de Marciac, c'est Jacques Nolot. Alors Jacques Nolot, il est à la fois metteur en scène de théâtre, il est réalisateur, il est acteur. C'est l'univers de Téchiné. C'est un homme qu'on a revu, un acteur qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps, puisqu'il était l'hospitalisé à côté d'André Dussolier dans Tout s'est bien passé. Jacques Nolot, c'est quelqu'un qui... C'est une force tranquille. Alors moi, je le connais bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... beaucoup d'introspection, il est toujours sur dans l'interrogation, le doute, mais c'est un acteur qui est vraiment indispensable au cinéma français et je trouve qu'on doit, nous, mettre vraiment l'accent sur ses seconds rôles parce que, voilà, il joue le rôle du père d'Aurélien Gabrielli et, voilà, il est formidable, Jacques Nolot, et chaque fois qu'on peut ouvrir un tiroir qui met la lumière sur un de nos grands acteurs français et en plus réalisateur, c'est important de le souligner. De même que son épouse dans le film, qui est Saadia Ben Tayyab, qui est vraiment formidable aussi, qui joue les parents d'Aurélien Gabrielli.
Oui, parce que le personnage central est issu d'un mariage mixte, c'est-à-dire qu'un Français et algérienne, oui. Et c'est une origine qu'il n'aime pas mettre en avant. Le seul ennui qu'il ait, parce que physiquement ça se voit pas, l'ennui qu'il a, c'est son prénom. Et un prénom qu'il cache, hein, chaque fois pour... Et alors, vous l'avez dit, pour arriver à vivre, parce que, en fait, il se met dans ces situations très compliquées, dans laquelle il est, de toute façon, il serait de toute manière, même en vivant avec son copain, c'est que quand il tombe amoureux, il veut louer un appartement hors de prix, il n'a plus d'argent, donc il vit de petites magouilles, c'est comme ça qu'il arrive à... avoir assez d'argent, c'est pas toujours très honnête. Et la place de la femme, quand même, ça m'étonne, mesdames, que vous n'en ayez pas parlé, parce que c'est pas très féministe tout ça. Elle est pas dégourdie. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, elle est un peu chaque fois hors du coup.
Mais elle est étudiante.
Peut-être.
Elle le laisse gérer.
mais c'est vrai. Non, mais ça fait partie de l'histoire. Hein. C'est moi qui assiste. Mais en tout cas, ouvertement, le réalisateur a voulu la montrer comme ça. D'autant que c'est son expérience personnelle, n'est-ce pas?
Oui,
il raconte sa vie.
Alors, il a dit que c'était son expérience personnelle, mais à 30 ou 40%, hein, je crois.
Okay. Oui, néanmoins, il est un peu dans la même situation que l'écrivain, puisque lui était réalisateur, il avait fait quelques cours, son personnage a écrit une nouvelle, il voulait faire un long métrage, lui veut faire un roman. Il y a quand même
bien sûr,
il galérait avec l'argent, il y a beaucoup de similitudes.
Et le café de ses parents dans le film et le café de ses parents en vrai à Lyon.
Oui, tout à fait à Lyon. Et je aussi, bon, puisqu'on a cité les acteurs, le citer aussi donc celle qui est l'actrice principale, qui est Louise Chevillotte.
Oui, bien sûr.
Et qui est vraiment pétillante. Et en fait, c'est vrai que quelque part, je le soulignais tout à l'heure, Vanessa, cette histoire de jeunes qui galèrent quand ils viennent à Paris, c'est vrai qu'on veut monter à la capitale, comme disent les provinciaux. Mais quand on se retrouve confronté à 80% de difficultés, c'est l'argent à Paris. C'est vrai qu'il y a des désillusions et parfois il faut effectivement galérer comme il le fait.
Alors il y a Maxime aussi.
Oui, je voulais réagir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 18 ans je suis monté à Paris, donc je connais un peu toutes ces galères et c'est vrai que c'est pour ça que le film m'a d'autant plus parlé. Oui.
Mais c'est un parcours qu'on a déjà vu, c'est Illusion perdue aussi. Alors, ça se passe, c'est Balzac, il monte, il veut devenir écrivain. C'est la même chose. Il part de Lyon, il va à Paris. C'est mieux la capitale. Il y a tout ce côté à la fois ce rêve qui veut être réalisé, qu'il veut réaliser, devenir réellement auteur. Mais il y a aussi la façon d'y arriver qui suit pas forcément les sentiers les plus honnêtes.
Louise Chevillotte, tu en as parlé, mais c'est l'actrice qui jouait dans Synonyme de Nadav Lapide.
On y revient.
Je voulais y revenir.
Oui, au fil de ces émissions, nous allons faire les fiches complètes des films de Nadav Lapide.
Alors, oui. Maxime, je te laisse nous présenter plusieurs films que je n'ai pas pu voir puisque pour cause de Covid. Sachez que quand on vient dans cette émission, la dernière fois, vous êtes tous repartis avec le Covid.
Pas moi.
Non, pas toi, mais enfin les autres, oui.
On a un beau cadeau.
C'était un beau cadeau. là c'est fini, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs films qu'on n'a pas pu voir, donc je te laisse.
Du coup voilà, moi je voulais parler de L'ombre d'un mensonge de Bully Lanners, qui est un réalisateur que j'adore, et c'est avec Arthur Rimbaud de Laurent Canté que j'avais eu la chance de rencontrer également. C'est pour moi les deux meilleurs films français de ce premier semestre. C'est vraiment voilà, un film d'une sensibilité à nul autre pareil, la réalisation est magnifique. J'ai souvenir de deux plans sublimes avec des zooms voilà, sur la première scène dans la ruelle, le moment où ils se rapprochent, puis quand on se donne la main pour la première fois en public. Ça aurait pu être complètement kitsch, justement, voilà, ils se sont cachés sans vraiment se montrer juste avant, mais vu qu'on est sur l'histoire de quelqu'un qui a perdu la mémoire, et là, réussir à se connecter justement par le corps, c'est vraiment... Et pour moi, les paysages aussi sont des personnages à part entière. On sent que Bully Lanners, comme il nous l'a dit quand je l'ai rencontré, que l'Écosse, enfin, il y va plusieurs fois par an, et c'était pour lui impératif de tourner là-bas. Et enfin voilà, son directeur de la photographie, son nom m'échappe, mais il a vraiment fait une lumière. Enfin, la photo est sublime. Voilà, donc des paysages qui sont majestueux. Et pour moi, donc voilà, même si ça traite du souvenir, c'est un film dont on devrait longuement se souvenir. Et je laisse la parole.
Qui a vu le film? Oui, qui veut rajouter quelque chose?
On a vu L'ombre d'un mensonge. Je trouve, oui, c'est remarquable. Alors, je trouve que même alors, j'ai plus en tête le titre original, mais je pense qu'il était beaucoup plus parleur.
Nobody has to know.
Nobody has to know. Personne ne devrait savoir. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus révélateur que le titre français, L'ombre d'un mensonge, parce que L'ombre d'un mensonge, c'est un côté un peu péjoratif et ça lève une petite suspicion, alors que le titre original et l'histoire du film est vraiment formidable. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup de... Plus il vieillit, Bully Lanners, plus son cinéma s'affine, sans vouloir faire un jeu de mots de tennisman russe, il s'affine, voilà.
Je ne sais plus quoi dire maintenant, vous êtes vraiment cher Joël Attard. Je suis complètement ébobie. Oui, L'ombre d'un mensonge, c'est magnifique, parce que ce qui est important, c'est cette rencontre, comme vous le disiez, entre cet homme et cette femme, surtout cette femme qui sur lequel pèse le poids de... Ce qui est important sur cette île, hein, c'est l'île de... Le nom, mais finalement, on a les noms on a tous des noms qui échappent. Et l'île de Lewis, voilà. L'île de Lewis, c'est cette île qui est au nord de l'Écosse et qui est battue par le vent parce qu'elle est face à l'océan Atlantique. Donc, il y a la végétation qui y est est pas très haute. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et puis, sur cette petite île, il y a la forte présence de l'église presbytérienne, c'est-à-dire que c'est ce qui détermine tout le comportement des gens là-bas, et tous les dimanches, ils vont à la messe ou à l'office, et c'est très important, on met le costume, on est toujours... on s'habille toujours de la même façon qu'on le faisait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les hommes mettent le costume, les femmes portent un chapeau, et c'est comme ça, et ça ne changera pas. Le seul autre lieu où il peut y avoir des échanges, encore que dans l'église, c'est pas tout à fait de la même façon, c'est le pub. Alors là, le pub, c'est aussi moins là un personnage. Ce qui est important, comme le disait Maxime, c'est le décor. C'est ça qui est important. Le décor a une place aussi importante que cette rencontre, que ce couple. Ce côté sauvage, ce côté création du monde où ces deux personnes vont se retrouver pour un amour exceptionnel, surtout de la façon dont ça arrive, cette ombre, là, ce manchot. Et puis, les acteurs sont formidables. Bully Lanners a joué, mais cette actrice, elle est... Michel Ferlet est extraordinaire. C'était elle, Lady Stark. Elle est sublime.
La manière dont il filme son visage, on dirait des films hollywoodiens, du Clint Eastwood, on dirait La Route de Madison. C'est vraiment formidable. La manière dont le chef opérateur, il n'y a pas que d'ailleurs les visages, parce que chaque plan, c'est vraiment de la photographie. On dirait de la peinture, en fait.
Et c'est justement, voilà, le nom du réalisateur, du directeur de la photo, c'est Frank Van Den Eden, qui est belge. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Louis-Marie. Pour la petite anecdote, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, c'est pas lui qui devait jouer, en fait. À la base, ça devait être un acteur italien. Et au final, pour des raisons diverses, il s'est retrouvé à le jouer. Et c'est d'autant plus fort parce qu'il est réalisateur. Du coup, je trouve que c'est vraiment très, très fort de porter ce film, de bout en bout.
Est-ce que tu as un autre film? Parce que
Oui, du coup, éventuellement Goliath, parce qu'il me semble que Vanessa et moi, on l'a vu tous les deux. À la rigueur, on peut en parler très rapidement. Donc, c'est un film de Frédéric Tellier qui avait déjà fait l'affaire SK1, qui était cette fois-ci sur le scandale au Quai des Orfèvres au début des années 90. Et pour moi, voilà, c'est un film qui dénonce beaucoup de choses et qui est très, très juste. Je sais que les critiques ont été assez mitigées sur ce film. Il y en a qui ont dit que c'était très manichéen, mais moi, je trouve que pas du tout. Et là, justement, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on est de l'autre côté, en fait. On est sur, justement, voilà, David et Goliath. Et là, on est sur, donc Gilles Lelouch face à Pierre Niney. Les deux sont exceptionnels. Enfin, Pierre Niney, enfin, il a pratiquement mon âge et... c'est dingue, il explose pour moi. Il joue vraiment le rôle d'un salaud. Hein, désolé, hein, j'emploie un grand mot à la radio, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il dépense son fric. L'anniversaire de sa fille, elle part en limousine au concert de je sais pas qui, enfin Ariana Grande. C'est complètement surréaliste. À côté de ça, un petit avocat qu'ils essayent d'acheter. Enfin, j'ai souvenir de cette scène dans un grand hôtel. Ils le reçoivent de manière, oui, enfin clairement, on est là pour t'acheter. Et lui, il dit bah non, enfin moi je suis là. Pour défendre la veuve et l'orphelin. Et du coup, ouais, je trouve qu'on y voit comment l'homme est prêt à tout pour convaincre grâce au chéquier, face au grand échiquier des magouilles. Voilà.
Merci Maxime. Deux mots sur un film qui va sortir mercredi prochain, j'aimerais que quelqu'un en parle, c'est Année 20 d'Elisabeth Vogler, c'est ça, Vogler. C'est Vogler, oui. Qui nous... Alors c'est un film en un seul plan séquence, tu nous en parles Joël?
Oui, je vais partager le micro avec Louis. C'est un film qu'on a...
Il sort le 27 à l'ABC à Toulouse, voilà.
Alors c'est un film vraiment singulier parce qu'effectivement c'est un plan séquence qui est extrêmement bien réussi. Alors ce sont tous des acteurs de théâtre, donc moi la question qu'on pouvait être amené à leur poser, c'était de se dire comment ils avaient pu justement ne pas être handicapés par la pression qu'il pouvait y avoir avec une scène qu'on loupe, parce que c'est vraiment une scène où on voit un film où on voit les acteurs à la fois à pied, en scooter, en vélo, en métro, et c'est vraiment des longs plans séquences où ils s'entrecoupent, ils s'entrecroisent pour se retrouver à la fin, extrêmement bien joué. Alors ça part d'une idée où ils ont en plus partager le film en plusieurs parties, parce qu'il y a le film, le long métrage qui est sorti, mais il y a également sur le YouTube des épisodes. Il y en a un qui a été tourné, le premier qui a été tourné je crois à Nantes, le deuxième à Bordeaux, à La Rochelle, le troisième c'était à Toulouse, le quatrième à Marseille, ils font un tour de France.
J'ai regardé celui
justement
de Toulouse,
des petits plans séquences qui étaient,
vous les avez sur Instagram,
largement moins réussi que le long métrage. Hein.
Complètement.
Le long métrage il est vraiment, il foisonne, il est intelligent.
C'est pas forcément une bonne pub pour le film.
Non, voilà, du tout. Je trouve que c'est brillant au niveau du jeu d'acteur et il faut vraiment voir le long métrage parce que c'est une petite pépite, un ovni dans le panorama du cinéma français, alors que vraiment n'allez pas voir l'épisode sur le YouTube.
Voilà, pas l'épisode mais le film Année 20, c'est frais, c'est positif et c'est sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vraiment un film
qui
m'a plu.
Oui, et puis il y a une chose qui est une force aussi, c'est au niveau de ce collectif, c'est d'arriver aussi à imbriquer toutes les composantes sociétales. C'est-à-dire qu'à la fois,
absolument,
on peut mélanger justement toutes les couleurs de la population, le noir se marie bien avec le beurre se marie bien avec, etc. Toutes les colorations, toutes les strates de la composante française sont vraiment bien montrées, extrêmement bien jouées.
Alors, on arrive à notre pause musicale. C'est Maxime qui a fait le choix d'une musique de film. Donc, comme la dernière fois, on va commencer à la passer. Et puis, le premier qui trouve la musique a gagné.
Le Covid.
Les mains sur les buzzers.
Allez, les mains sur les buzzers à tous les trois.
Il y a un buzzer.
Vanessa, Joël et Louis-Marie, vous essayez de trouver la musique.
Burton.
Quel film?
Chocolaterie.
Non.
C'est non, c'est Édouard Romain d'Argent.
Bravo.
Bravo.
Et alors qui a écrit? Qui a composé?
C'est Daniel Elfman. C'est
exactement.
Le compositeur attitré de Tim Burton.
Exactement. Ouais, bravo Louis-Marie.
Avec Johnny Depp et Vincent Price.
Exactement. Vincent Price est fabuleux. Un de ses derniers rôles, je crois.
Quasiment. Oui.
quasiment.
Oui, Winona Ryder qui est sublime.
Ah oui, c'est vraiment... Mais...
Alors on passe à notre séquence anecdote cinéma. Alors bien sûr, comme nous intégrons Maxime aujourd'hui, c'est à lui que j'ai demandé de préparer une petite anecdote sur le cinéma. Alors c'est soit un souvenir d'un film marquant, ou une situation à Cannes par exemple... Je te laisse nous raconter ça.
Alors, sans prétention aucune, ça a été compliqué d'en trouver une seule. Alors, c'est une petite anecdote avec Philippe Lioret. En fait, j'ai une histoire assez folle avec lui. Enfin, sans mauvais jeu de mots.
On est impatients de savoir.
Ça y est, là, Marie, voilà. Il est très intéressé.
Voilà, non. Je me doutais que vous alliez rebondir sur ça. Voilà, en fait, c'est assez rigolo parce qu'à l'ESRA, on a eu la chance pendant le master scénario d'avoir l'aventure dans le long métrage et on a suivi du coup toute la fin de la préparation de Welcome. Donc, c'est-à-dire, il est venu, Audrey Dana est venue, Vincent Lindon est venu, super la rencontre avec lui. Et également, donc, Fiera Taïverdi, qui est donc le garçon. Et en fait, la petite anecdote que j'ai, c'est que donc, c'est sa sœur joue la fille qui va traverser à la nage. Et il s'avère que je l'ai retrouvée en fait quelques mois plus tard parce que j'étais bénévole pour le festival du film français en Macédoine qui a été créé donc par le PDG de l'ESRA, Max Azoulay. Je me suis dit, tiens, ça fait deux fois que je le vois, c'est bizarre. Et je l'ai revu quand UGC a fait les incontournables UGC pour Welcome et je me suis dit, mais mon premier court-métrage s'appelle Eclipse, ça raconte justement l'histoire d'une fille voilée et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et il n'a pas arrêté de dire, oui, les deux comédiens, ils n'ont jamais fait de cinéma, il ne faut pas hésiter à les faire tourner. Du coup, je suis reparti avec le portable de cette actrice. Et il s'avère qu'on a tourné le court-métrage le lendemain des Césars. Malheureusement, ce film n'en a pas eu et je trouve que c'est extrêmement surprenant. C'est un film sublime. Du coup, voilà, moi, j'ai suivi, on a été assisté à la post-prod, on a vu le film en avant-première, j'ai le scénario. Enfin, voilà, le film est sublimissime. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans... à côté de moi, Welcome, et vraiment je vous le conseille.
Ah oui, Welcome, oui, bien sûr.
Welcome, voilà, donc vraiment très très beau film.
Oui, il y a une très belle phrase de Lindon dans le film, il dit « j'ai pas été foutu de traverser la rue pour retenir ma femme, et lui, il va traverser la Manche à la nage ».
C'est vrai, très beau film.
Merci pour cette petite anecdote cinéma. C'est vrai que j'aime bien que chacun raconte une petite anecdote, puis je trouve que ça permet aux auditeurs de mieux connaître chacun d'entre nous. Alors, on va passer à la séquence chronique Vanessa. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Vanessa?
Et moi, je vais parler du cinéma aux séries et inversement, parce que que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, de grands noms du cinéma passent de la série et du cinéma à la série. Pour le premier, on peut citer Nicole Kidman et Reese Witherspoon, stars de la série Big Little Lies. Pour l'inverse, Elizabeth Moss, faisant fureur et ses armes dans la série La Servante Écarlate, puis sur grand écran dans Invisible Man. Ou encore, Michelle Ferley, dont on a parlé tout à l'heure, alias Lady Stark de Game of Thrones, dans le long-métrage L'Ombre d'un mensonge, actuellement au cinéma. Donc, il y a des festivals de séries un peu partout, dans le monde et en France. Et on a quelques petites pépites, le festival de La Rochelle, le festival TV de Luchon et le festival Sériemania. Et dans ces festivals, on retrouve des grands noms du cinéma aussi. Et je vais vous passer des petits extraits. Donc le premier, ce sera Marina Hand, qui est dans la série Hors Saison. C'est une mini-série. Et vous la connaissez normalement du cinéma parce qu'elle a obtenu un Oscar. Et pourquoi? Vous vous souvenez?
Un Oscar?
Ouais, un Oscar Marina pour la meilleure Hand. Actrice. Elle a joué dans Ne le dis à personne.
Oui,
oui, oui, mais là, oui. Tu nous poses une colle. Un Oscar, un César.
Un Oscar. Non,
un Oscar. Ouais, un Oscar. Ah. Un César?
Non, oui, plutôt un César.
Un César.
Oui,
parce que des aussi, je là.
Un César. Un César, pardon, pour en France. Ouais.
Pas de souci. Le César.
Un film indépendant.
Ah, oui, Lady Chatterley.
Lady Chatterley.
Bravo, tout à fait. Maxime, un bon point.
Donc, elle va nous parler de son rôle dans Hors Saison. Hors Saison, qui est un thriller. Elle incarne le rôle d'une capitaine de police. Il y a un meurtre dans une petite station de ski. Et il se trouve qu'elle est intimement liée à cette histoire, et son fils aussi. Donc elle va nous parler un peu de savoir comment elle a reçu ce rôle.
Je ne peux pas laisser passer. Enfin, il y avait quelque chose de cette audace, effectivement. Et surtout, c'était comme... Oui, l'excitation de comment on va faire ça, pourquoi ce choix, comment... Enfin, oui, mais je suis d'accord, c'est-à-dire plus... Moi, j'adore l'idée que ce soit difficile et compliqué. C'est quand même...
Alors, elle nous parlait donc... elle nous parlait de son rôle... de capitaine, et en fait, elle va tout faire par amour. Et nous, les téléspectateurs, on a eu beaucoup d'empathie pour son rôle, même si elle va tuer. Et on le sait dès le début, hein, que c'est elle. Et donc, petit à petit, on va la suivre, et on va voir si elle va être découverte ou pas.
C'est comme Columbo, en fait.
Ouais, c'est. Après, on a des gens bien, avec Dominique Pinon et Michael Abitbol. Dominique Pinon, je ne vais pas vous dire où vous l'avez vu. Hein. Michael Abitbol, vous l'avez vu dernièrement au cinéma. D'ailleurs, le film vient de sortir. Non, ça ne vous dit rien?
Pas vu.
Non. La revanche des crevettes pailletées.
Ah oui, bien sûr. On n'a pas eu le temps. Je voulais qu'on en dise deux mots tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de passer tous les films. Hein, oui.
Donc voilà, donc, il nous parle des personnages, des gens bien. Le speech, c'est en fait c'est un couple. Ils sont endettés, ils ont des graves problèmes. Et au début du film, bizarrement, la femme disparaît et va mourir, et lui va hériter.
La façon de traiter même des personnages secondaires, comme ces trois femmes qui viennent au solarium,
et Michael,
d'un coup, ça
Michael
apporte
Abitbol.
Aussi du crédit, ça apporte de l'humanité, et j'ai l'impression qu'on rit... avec, mais pas d'elle, et c'est un peu le cas sur tous les personnages. Il y a comme ça une... Je trouve qu'ils n'ont pas de jugement. Ils accompagnent, ils nous proposent ces personnages extrêmement humains dans toutes leurs faiblesses et dans toutes leurs failles, sans forcer le trait justement de la caricature. Et ça, je pense que c'est effectivement à l'écriture, mais dans le travail ensuite de direction et dans tout ce travail de post-production qui sont arrivés à cet équilibre, et ça m'est apparu de façon flagrante. Je le savais déjà, mais je l'ai vérifié en tant que spectateur en le voyant. Cette tendresse et ce dosage quoi, des personnages. Quand...
Voilà, donc il nous parlait de la série Des gens bien, qui sera une mini-série aussi. Donc c'est une mini-série franco-belge. On a aussi un gros coup de cœur pour Russ. Alors Russ, les personnes ne sont pas connues au cinéma. Ce sont trois actrices. Il y a Charlie Boisselier. Il y a
Un rapport
Inès.
Avec Julien ou rien à voir?
Quoi?
Il y a un rapport avec Julien Boisselier ou rien à voir? Non.
Alors là, je ne sais pas.
Ah, d'accord.
C'est vrai que je ne connais pas le rapport okay. avec...
Okay.
Mais Charlie Boisselier, pardon.
Ah oui.
Assa Silla okay. et Inès Ouchaou.
Ok.
Donc, après avoir disparu pendant 6 mois, Jamel, 20 ans, revient dans la cité où il est né. À peine arrivé, il est violemment agressé et sombre dans le coma. Sa petite sœur, Anan, 18 ans, est bien décidée à retrouver le coupable. Elle embarque ses deux meilleures amies, Ambre et Maïssa, dans son enquête. Tête brûlée, les trois filles s'aventurent dans des zones dangereuses. Comme ça, c'est vrai que le speech, bon, voilà, on se dit une série ou autre, mais c'est une comédie musicale. Et pas une comédie musicale chantons sous la pluie. Ah non, ça groove, ça rappe. Et tous les acteurs chantent. Même les figurants. C'est très fort, c'est bluffant, c'est frais, ça nous emporte. Et on a été séduits. D'ailleurs, le jury a été séduit puisqu'ils ont reçu les trois actrices le prix de la meilleure actrice française.
Tous ces flashbacks, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit ce qui s'est passé?
Désolé, c'est à la fin de...
Est-ce qu'on voit ce qu'Albert est en train de raconter? Est-ce qu'on voit ce qu'Adrien est en train d'imaginer? Quand nous, on a poussé pour que le spectateur, il voit ça, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir, c'est dit même à certains moments quand il demande d'avoir une photo de Solange et qu'Albert lui répond, ben, il n'y a pas, tu devras imaginer.
J'ai fait un film qui sort, je pense, en octobre, normalement. Et ça s'appelle Le Visiteur du Futur. Et je joue une jeune guerrière. Et c'est encore une fois un rôle de femme forte. J'adore.
Alors, celle que vous avez entendue, c'est Assa, donc qui joue dans cette série et qui va passer, qui va passer en film dans Les Visiteurs du Futur prochainement. Je finirai par Les Papillons Noirs, que vous avez entendu l'extrait, justement, c'était le réalisateur qui parlait et qui disait, par rapport à cette mini-série où il y a Nicolas Duvauchel dedans et Ariel Ahrestrup, que vous connaissez aussi du cinéma, c'est un thriller, mais c'est un Bonnie and Clyde serial killer qui est assez fort. Et on suit un auteur qui va rencontrer un mec qui veut écrire son histoire. Et petit à petit, il apprend que cette histoire, bah, il n'est pas si éloigné que ça.
Melvin, sur ce truc de se faire valider.
Voilà. Donc, on a entendu le réalisateur. Et là, ce que vous allez entendre, c'est Anthony Bajon qui parle de son rôle dans Le Monde de Demain, qui est la série qui a remporté le prix, le meilleur prix international du festival Sériemania.
Il y a se faire valider par les réalisateurs, ce qui est super, mais aussi se faire valider par ceux qu'on incarne et aussi la responsabilité qu'on a de les représenter et se dire putain, faut pas se planter. Après, Bruno, il est vraiment très, très, très chill pour le coup. Il m'a laissé beaucoup de liberté. Et je crois qu'il voyait des rushs ou même pas. On s'appelait beaucoup, on s'appelait une fois par semaine. Il me demandait de lui décrire ma semaine. Les moments. C'est à cause de lui. Il me fait sortir trop tard. Les moments où. Il me demandait toujours si vraiment je tenais tête à Joey dans la série. Pour lui, c'était très important. Je crois que c'est le truc le plus important.
Merci beaucoup Vanessa. On est déjà à la fin de l'émission, alors je vais clôturer très vite. Je tiens à vous dire que le mois prochain, bien sûr, c'est le mois de mai, c'est le mois du Festival de Cannes. Maxime nous représentera dignement et j'espère dès aujourd'hui que nous pourrons faire une émission en duplex. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant et sur les sites de radio et sur les réseaux sociaux de cette émission en direct du Festival de Cannes. Je voudrais également annoncer le décès de l'acteur Jacques Perrin. On vient de l'apprendre aujourd'hui. Il était malade, oui. Et oui, tu ne le savais pas.
Je l'apprends.
Mais voilà, c'est, okay. on vient de l'apprendre tout à l'heure.
Aussi grand producteur, parce que ça, il faut aussi le souligner, autant qu'acteur, parce que Zed, c'est lui, Microcosmos, c'est lui.
Zed, oui, c'est
lui. Il a énormément produit, et c'est l'oncle, je crois, si je ne m'abuse, de Christophe Baratier, et le frère d'Eva Simonet, attaché de presse, formidable du cinéma français pendant des années. Voilà, c'est un grand acteur que j'ai eu la chance de connaître à Cannes, justement. Et pour lequel j'avais beaucoup de respect, parce que quelqu'un qui était à la fois tendre et quelqu'un qui avait beaucoup de compétences.
Merci, c'est un bonheur de t'avoir avec nous, Joël, parce que tu es un puits de savoir au niveau du cinéma. On sent toutes ces années de fidélité au cinéma français. Je voulais remercier Maxime de m'avoir accompagné sur cette émission.
Merci.
Vanessa, merci à toi, Joël. Merci. Louis-Marie.
Merci beaucoup.
Et merci à toi, Tiphaine, de nous accompagner à chaque émission. Je vous dis à dans un mois, en direct du Festival de Cannes, je l'espère, qu'on va pouvoir vous offrir ça. On va tout faire pour. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes séances.
Merci.
Merci.
Cher Irem Finkel, c'est Nadav Lapid. Je voudrais vous féliciter pour cette nouvelle émission sur cinéma, 37. Je garde encore le souvenir de notre entretien lors de la sortie du Genou d'Aide, de votre enthousiasme, de votre liberté d'esprit, de la pensée. Et je suis sûr que vous allez amener à cette émission exactement le même mélange de quelque chose de précis et de sauvage, et cette capacité de profiter de la liberté de la pensée pour aller au-delà. Donc, bon début, bonne mission.